Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 11 novembre 93 à Saint-Jeotard.
Question par rapport à l'éthique. La question éthique est souvent posée aujourd'hui en termes de responsabilité. Et dans un champ communautaire, la plupart du temps, ceux qui invoquent cette éthique de la responsabilité n'admettent pas d'établir un lien avec le choix personnel d'un bien comme finalité. Que leur répondre si l'on veut éviter l'argument apologétique qui consiste à leur dire qu'ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante aux questions qui se posent à eux. Pouvez-vous préciser ce que signifie philosophiquement être responsable de son acte vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres? Pourquoi la responsabilité est-elle une propriété toujours attachée à l'acte moral? Oui, on prend la responsabilité parce que justement c'est une propriété qui est liée à la conscience au fond. C'est tout le problème de la conscience, je crois. Dans la perspective d'une phénoménologie, le problème moral se pose nettement en termes de conscience. Autrement dit, pour qu'il y ait acte moral, il faut qu'il y ait conscience. On est tous d'accord. Condition sine qua non. Et la responsabilité repose sur cette conscience, pas n'importe quelle conscience, parce que je peux avoir conscience d'actes dont je ne suis pas responsable. Mais pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait conscience. Et la responsabilité, alors, est autre chose, c'est qu'une partie de l'aspect moral. Ce n'est pas tout l'aspect moral. La preuve, c'est que je peux poser un acte morale, volontaire, dont je suis responsable par rapport à moi-même, par rapport aux autres, et dont la responsabilité reste assez indéterminée. Autrement dit, le point de vue de la naissance de l'acte moral, point de vue premier de l'acte moral, est au-delà de la responsabilité, je crois. C'est ça qu'il faudrait bien préciser. L'acte moral est un acte qui implique un devenir. C'est au fond la difficulté constante, là. Quand nous avons étudié, nous, l'acte moral, dans la perspective de l'expérience de l'amour d'amitié, nous avons vu comment l'acte moral, à différents moments, depuis le premier amour jusqu'à l'imperium, et je crois que c'est très différent puisque c'est au plan vu théologique. Quand je regarde l'encyclique, la dernière encyclique du pape, il me semble assez net, sans que ce soit dit explicitement, parce qu'une encyclique ne se situe pas au niveau théologique. Hein ? Dites-vous bien ça. C'est plus que la théologie. C'est un enseignement du pasteur suprême, successeur de Pierre, pour faire paître les brebis du Christ. Si vous lisez l'encyclique au point de vue théologique, c'est une erreur. De l'encyclique, il faut préciser des problèmes théologiques. Mais l'encyclique se situe à niveau de l'enseignement de l'Église. C'est très important, ça, de se rappeler ça. Et on voit très bien que sous-jacent à cette encyclique, c'est le point de vue de l'acte moral qui commence par une union affective au bien qui me finalise jusqu'à l'exécution de l'union effective. Distinction que saint Thomas constamment fait. Le passage de l'union affective à l'union effective montre tout le développement de l'acte moral. Ce que nous avions fait l'année dernière, à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Et dans l'amour d'amitié, c'est assez net qu'il y a l'union affective qui conduit à l'union effective. Et je crois que l'encyclique du pape montre que des quantités de théologiens d'aujourd'hui font de cette distinction de l'union affective, de l'union effective, une séparation. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. La responsabilité, à quel moment se situe-t-elle? Je suis responsable de mes actes. Et certains actes, qui sont des actes intérieurs, ne regardent que ma conscience. Personne d'autre ne peut en juger. Le premier amour. Personne d'autre ne peut en juger. Ma responsabilité devient communautaire à partir de l'impérium. Quand j'exerce l'autorité, ma responsabilité est communautaire, tout de suite. Parce que l'autorité est au niveau communautaire. L'autorité au sens fort. Donc voyez bien que il faut tout de suite distinguer responsabilité intérieure, responsabilité communautaire, responsabilité personnelle. Responsabilité communautaire, c'est deux choses tout à fait différentes. Il y a un lien entre les deux, c'est différent, c'est évident. Pour qu'il y ait responsabilité communautaire, il faut une responsabilité personnelle. Pour que l'éthique soit une éthique communautaire et politique, il faut l'éthique personnelle. L'éthique est premièrement personnelle. Donc, ce qui fonde l'éthique, c'est une responsabilité personnelle de mes actes. J'accepte un premier amour. Je l'accepte. Bon, je suis responsable dans cette acceptation. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. La responsabilité, c'est le fait que ma volonté me donne d'être celui qui domine ses propres activités. Je suis capable de poser un acte ou pas le poser. Le fait d'être capable de poser un acte et de pas le poser fait que je suis responsable de cet acte. Si j'étais dans l'incapacité d'avoir suffisamment de recul pour poser ou pas poser cet acte, je ne serai pas responsable. Vous voyez, quand psychologiquement, on est très fatigué, on est dans un état affectif tel qu'on n'est plus responsable de ses actes. On le dit, vous n'êtes plus responsable de vos actes. Parce que le propre de la psychologie, c'est de vous arrêter ou pas m'y arrêter. Je peux l'accepter ou le refuser. Eh bien, je crois que c'est là le premier moment de la responsabilité. C'est le fait de pouvoir accepter ou pas accepter. Donc, on est en face de cette liberté très radicale. Parce que toute responsabilité implique la liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas responsable. Ça s'impose à vous comme un déclic. Une chose mécanique, et puis c'est tout. Tandis qu'il y a, dès qu'il y a responsabilité, il y a toujours liberté. Et la liberté, dans ce cas-là, de plus foncier, c'est de poser un acte, pas le poser. Et la liberté la plus foncière, c'est par rapport au premier amour. Je suis responsable d'accepter cet amour. Je suis responsable de le refuser. Cette responsabilité, là, elle est fondamentale. Les premières, il faut toujours saisir les choses à leur naissance. Mais cette responsabilité, je la retrouverai dans le choix. Alors, d'une façon beaucoup plus explicite, mais c'est toujours le même. Je peux accepter ce choix ou pas. Alors ça, là, c'est la détermination. Vous voyez, donc, il y a deux responsabilités comme deux types de liberté. La liberté qui porte sur l'exercice de l'acte, la liberté qui porte sur le choix. Et troisième liberté, la liberté de passer l'exercice, l'imperium. Je veux poser cet acte-là, qui est à la fois l'exercice et la détermination. Donc c'est la synthèse de liberté. Donc je crois qu'il y a des niveaux de liberté, des niveaux de responsabilité. Et personnellement, je poserai trois niveaux de responsabilité personnelle. Premier, accepter un amour ou le refuser. Deuxième, à l'égard du choix. Troisième, à l'égard de l'imperium. Qui ponctue très nettement l'acte humain. Vous voyez, dans la perspective d'une phénoménologie, je réfléchis sur ce dont j'ai conscience. C'est sûr que la conscience de mon premier acte de responsabilité est moins conscient que l'acte ultime de l'imperium. Alors, c'est très vrai que la responsabilité dépend de la conscience. Quand je ne suis pas très conscient qu'il y a tout l'aspect imaginatif qui joue, ma responsabilité est moindre. Donc vous voyez, c'est un problème très complexe. Alors, la question posée, pourquoi je ne fonde pas l'éthique philosophique sur la responsabilité? C'est parce que la responsabilité n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental dans mon acte humain. C'est une propriété de mon acte humain. Mon acte humain, c'est un acte qui est finalisé par un amour spirituel. C'est ça ce qu'il y a de plus fondamental. Mais je peux le poser ou pas le poser. Donc je suis dans le dilemme. Et ce qui est important, c'est de voir ce qui fait naître ce dilemme. C'est cet amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'acte moral. Et c'est ce lien que j'ai avec un bien spirituel que j'aime, dont j'accepte pleinement l'amour, qui sera le fondement de tout acte moral. La responsabilité manifeste pour moi, comme la conscience que j'en ai, de cet acte moral. Alors tout acte moral implique conscience et implique responsabilité. Une responsabilité intérieure. Mais ce n'est pas sur la responsabilité que repose mon éthique. La responsabilité manifeste, comme toutes les propriétés, le caractère propre de l'acte moral. Est-ce que c'est suffisamment net c'est pas suffisamment net pour vous. Notez votre objection. Tout de suite. Puis on pourra reprendre ça progressivement. Parce que c'est très important. Hein. C'est pas du tout une question secondaire, c'est une question très importante. Alors, la question posée, vous voyez, que leur répondre, eh bien, leur réponse, c'est l'analyse de l'acte moral. Pour montrer que la responsabilité n'est pas. C'est l'aspect subjectif de l'acte moral. C'est l'aspect, vous voyez, transcendantal, subjectif de l'acte moral. Mais ce n'est pas ce qui constitue l'acte moral. Ce qui constitue l'acte moral, c'est mon lien avec ce bien que je connais, ce bien spirituel qui m'attire. Alors ça montre tout de suite que le point de vue moral n'existe que s'il y a la finalité. Alors évidemment, dans toutes les philosophies où la finalité n'est pas développée, où je reste au niveau des valeurs, la responsabilité apparaîtra comme la valeur suprême, point de vue subjectif. Ça c'est sûr. Subjectivement, je crois qu'on peut dire que la responsabilité est une des responsabilités, une des valeurs majeures. Quelqu'un qui n'est plus responsable de ses actes, c'est net. Son acte n'est plus valorisé, puisque la valeur valorise. C'est le propre de la valeur, c'est de valoriser, je présume. Ça me semble difficile de dire autre chose. La valeur valorise. Et quand on regarde le point de vue psychologique, on regarde jusqu'au ce qui valorise. Ah, vous voyez, tandis que la vie. passion. Mais le choix comme tel n'est pas passionnel. Il est toujours volontaire. La passion comme élément qui intervient dans le choix fait que je me jette immédiatement sur ce qui se présente à moi. Ça, c'est la passion. On n'a pas de recul. Je suis trop passionné pour prendre un recul. Ah, j'ai découvert mon âme sœur, je me précipite. Puis au bout de trois fois que je me... Dès que je me suis précipité, je m'aperçois que c'est pas ça. Il y a une précipitation de l'instinct et de la passion qui supprime le choix. Le choix est d'autre ordre, d'un autre ordre. C'est toujours volontaire le choix. C'est toujours spirituel. Alors est-ce que de fait, le choix implique une distinction ou une séparation? Quand vous choisissez, vous séparez. C'est évident. Je t'aime au-dessus de tous les autres. Mais vous avez séparé. Vous avez mis tous les autres dans la mer. Vous avez tous rejeté. C'est toi que j'aime. Mais vous séparez. Pourquoi? C'est l'amour. L'amour va au-delà de la distinction. C'est l'intelligence qui distingue. Et l'amour sépare. Toujours. Parce que l'amour implique le point de vue de l'exister. Je ne peux pas aimer un idéal. Je distingue au niveau de l'intelligence. Et je sépare au niveau de l'amour. Et c'est quand, justement, l'intelligence n'est pas suffisamment maîtresse d'elle-même qu'on confond séparation et distinction. Chaque fois. Ou imaginativement, ou passionnellement, au point de vue de la passion. Alors, cette année-ci, voyons la naissance de la vertu, de la vraie vertu, pas de l'a priori de la vertu que vous avez en tête. Il faut purifier votre conception de la vertu. Parce que c'est vrai, on n'aime pas tellement la vertu dans notre monde d'aujourd'hui. Mais je dirais facilement, celui-là, il est beaucoup trop vertueux. Dire de quelqu'un qu'il est trop vertueux, ça n'a pas de sens. Mais dire à quelqu'un, il est ennuyeux dans sa vertu, ça c'est différent. C'est très très différent. On n'est jamais trop vertueux. Parce que la vertu est un sommet. Est-ce que l'Himalaya est trop haut? Oui, trop haut. Non, il n'est pas trop haut. Il est l'Himalaya. Est-ce que le Mont Blanc est trop haut? Non, il est le Mont Blanc. La vertu est un sommet. Un sommet entre deux contraires. Passionnel. La vertu, c'est le dépassement de la passion. La vertu, c'est le dépassement de l'imaginaire. On va essayer de comprendre ça, hein, progressivement, parce que c'est important de voir la naissance de la vertu. Alors, pourquoi d'abord faut-il des vertus? Au point de vue philosophique, au point de vue éthique. Pourquoi? C'est l'amour qui réclame la vertu. Ce n'est pas, au plan philosophique, ce n'est pas la loi qui réclame la vertu, au plan philosophique. Au plan théologique, la loi est donnée pour qu'on soit vertueux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La loi est donnée par surcroît pour qu'on soit vertueux. Les 10 commandements de Dieu, c'est pour faire que le peuple juif puisse aimer Dieu. Premier commandement, l'adoration, c'est très net. C'est pour pouvoir aimer Dieu. S'il n'y a pas l'adoration, on ne peut pas aimer Dieu. Sans adoration, on ne peut pas aimer Dieu. Impossible. Celui qui prétend aimer Dieu et qui ne veut pas adorer, il est dans l'imaginaire. Et son amour à l'égard de Dieu est purement imaginaire. Tandis que celui qui veut aimer Dieu comprend tout de suite qu'il faut l'adorer. Et l'adorer va engendrer en nous une vertu qu'on verra ensuite. C'est pas ça que je regardais en premier lieu. Je regarde moi par rapport à l'amour d'amitié. Pour que je puisse aimer vraiment mon ami, il faut que naisse en moi, que naisse au plus intime de moi-même, les vertus cardinales. Les quatre vertus cardinales qu'on retrouve dans toutes les philosophies idéalistes et réalistes. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'aspect pratique éthique, d'une certaine manière, je dis bien, d'une certaine manière, dépasse la distinction l'idéalisme et du réalisme. Parce que l'éthique est nécessairement réaliste. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis vertueux idéalement. » Vous êtes vertueux concrètement. En face du pot de confiture. C'est là où aussi vous êtes vertueux. Si vous mettez à loucher à droite et à gauche, regardant le pot de confiture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? On voit tout de suite que c'est concret. Et c'est à l'intérieur d'une communauté qu'on est vertueux. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis vertueux quand je suis seul dans ma chambre, dans ma cellule. Là je suis vertueux. Mais dès que je quitte ma cellule, je ne sais pas pourquoi, je tombe dans le point de vue communautaire. Et alors à ce moment-là, tout de suite, je suis furieux. Il y a un agacement prodigieux. De moi, parce que je suis sous le regard de tous ces imbéciles qui ne comprennent pas du tout ce que je suis. Alors, est-ce que vous êtes vertueux d'une façon isolée? Non. La vertu implique un exercice concret, comme tout acte éthique. Vous voyez, dire je suis vertueux dans ma cellule quand je suis seul en face de Dieu. Et je ne suis pas vertueux quand je suis au milieu des autres. Vous faites d'une distinction, une séparation. L'éthique est concrète. Elle est plus concrète que la psychologie. Il faut bien comprendre ça. Hein. L'éthique est concrète. Et c'est parce qu'elle est concrète qu'elle exige la vertu. Alors on va essayer de comprendre ce point de vue de la naissance de la vertu. Ça, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir et de voir que les vertus, c'est d'abord la prudence, la justice, la force, et la tempérance. Il y a un dégradé comme ça. Il serait très intéressant de regarder comment ces quatre vertus cardinales, et on appelle ça des vertus cardinales parce que elles sont justement fondamentales. Il n'y a pas de vertu sans ces quatre vertus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vertu? Arrêter. La vertu est liée à la perfection. La vertu est quelque chose C'est pas un parapluie pour empêcher de recevoir la douche. Non, c'est quelque chose qui, de l'intérieur, me met proche et capable d'aimer. Il faut pas faire de la vertu un surmoi, quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que quand on a, vous voyez, la vision mauvaise de l'aspect théologique, c'est de regarder cet aspect loi. les moyens et la fin. Entre l'union affective de l'amour et la manière dont cette union affective doit s'emparer de toutes mes forces vives. C'est comprendre que l'union a ce bien spirituel qui m'attire doit devenir une intention de vie. C'est-à-dire doit mobiliser toutes mes forces. Et en mobilisant toutes mes forces, je fais tout de suite la distinction entre ce qui me finalise et les moyens qui me finalisent. C'est le rôle de l'intelligence à l'intérieur. L'intelligence ordonne. Qu'est-ce qui va mettre un ordre dans cet amour que j'ai à l'égard de l'ami, à l'égard de ce bien spirituel, de ce bien personnel? C'est justement de comprendre que ce bien personnel, il me dépasse, il me transcende, il m'attire, il me dépasse. Il m'attire, par là il est immanent, il me dépasse, par là c'est lui qui tout le temps exerce sur moi cette force d'attraction. Vous voyez, c'est là la naissance propre de la prudence, parce que l'imagination risque tout le temps, l'imagination liée à la passion, risque tout le temps de ne pas accepter la distance qui existe entre le bien et la fin. Un bien qui finalise est un bien que je ne possède pas encore, mais vers lequel je tends. C'est la première distinction que fait l'intelligence entre le point de vue du bien et de la fin. Et cela, c'est la prudence qui fait ça. Distinguer le bien de la fin, c'est accepter que cette fin, je dois la guérir. Le bien, en l'aimant, je possède, mais comme ce bien me dépasse et qu'il est ma fin, je dois prendre tous les moyens pour l'atteindre. Tandis que si je reste uniquement au niveau affectif, sans voir la nécessité de passer à l'union efficiente, je fais une confusion entre le bien et la fin. Ça, c'est la lucidité que je dois posséder au-dedans de moi-même. Cette lucidité qui vient d'intelligence et d'intelligence pratique. Cette lucidité me fait comprendre que le bien que j'aime, mon ami, il existe indépendamment de moi. Il existe comme une réalité qui est mon bien. Mais cette réalité qui est mon bien est au-delà de moi. Vous voyez, cette confusion qu'on fait constamment entre le point de vue du bien et de la fin. Et cette confusion qu'on fait constamment entre le bien et la fin, c'est justement cette confusion imaginative qui m'empêche d'avoir cette lucidité entre ce que j'aime et ce qui me dépasse. En tant que je l'aime, je suis uni à lui. En tant qu'il me dépasse, je dois poursuivre ce et l'intention d'un homme prudent qui fait cette distinction. C'est une distinction qui ne peut se faire qu'au niveau de l'intelligence et qui ne se fait pas au niveau psychologique. Au niveau psychologique, puisque je vis dans l'ordre du conditionnement, je ne peux pas faire la distinction entre la fin et le bien. Et ne faisant pas cette distinction, je reste à un niveau passionnel. Et je crois toujours que celui que j'aime, je le possède puisque je l'aime. Et je m'identifie à lui parce que je l'aime. Phénomène d'identification qui empêche cette lucidité que donne la prudence, que donne l'intelligence pratique à l'amour qui m'unit à mon bien et qui me montre que cette union à mon bien n'est pas une union réelle. Elle est intentionnelle. D'où cette union affective va se transformer